L'histoire commence le 14 avril 1986.
Bonsoir.
Ce jour-là, ce fut la fin d'un grand voyage.
Simone de Beauvoir est décédée aujourd'hui à l'hôpital Cochin à Paris à l'âge de 78 ans. Cette simple phrase, communiquée en fin d'après-midi, annonçait la fin d'un itinéraire personnel engagé.
Fille d'une bourgeoisie conservatrice et catholique, née en 1908, Simone de Beauvoir a traversé le XXe siècle comme une entreprise d'émancipation.
Écrivain, prix Goncourt pour les mandarins en 1954, mais surtout militante du féminisme et auteur du deuxième sexe il y a près de 40 ans.
Un destin exceptionnel et parfois complexe. Mais elle demeure cette femme qui a montré le chemin à toutes les autres.
Elle fut la compagne de Jean-Paul Sartre depuis leur rencontre en 1929 jusqu'à la mort de celui-ci il y a 6 ans.
D'abord à l'ombre de Jean-Paul Sartre, elle s'est hissée à sa hauteur, puis elle l'a dépassée. Et aujourd'hui, son œuvre résonne dans notre présent. En vérité, c'est une femme qui arrive de loin. Qui es-tu, Simone Bertrand de Beauvoir?
J'ai envie que les gens me connaissent, parce que parmi les gens qui me lisent en particulier, il y en a beaucoup qui se trompent tout à fait sur mon compte. Et parmi les gens qui ne m'ont pas lu, mais qui ont entendu parler de moi, il y en a également beaucoup qui se trompent sur mon compte.
Cette nouvelle série historique s'intitule « Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie ». Alors, pourquoi ce titre? Eh bien, parce que sa vie fut un itinéraire audacieux entre les lignes de la bourgeoisie. Elle s'est affranchie d'un avenir qui était tout tracé et ce fut un long périple pour conquérir sa liberté. Dans ce récit, nous allons à la fois vous raconter sa vie, mais aussi l'histoire de la bourgeoisie française au XXe siècle et celle du mouvement féministe.
Les femmes prennent la rue ! Les femmes prennent la rue !
En compagnie d'historiens et d'historiennes, nous allons explorer le destin de Simone de Beauvoir avec cette même ambition qui nous anime, sonder le passé pour éclairer le présent. Faisons de l'histoire.
Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Je m'appelle Philippe Collin, et vous écoutez Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Premier épisode, tenir son rang.
Je m'efface donc maintenant pour donner la parole à Simone de Beauvoir.
J'ai commencé à vouloir vraiment écrire vers 15 ans. Je voulais écrire pour retenir quelque chose de la vie. Mais c'était primordial chez moi, vivre.
Mais pourtant, vous avez eu une éducation très bourgeoise.
C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie. Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes.
Comme le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfère au deuxième siècle.
Le récit débute en Corrèze, dans le sud-ouest, à côté d'Uzerche, sur la commune rurale de Saint-Ibard. C'est là, sur le domaine de Mérignac, qu'a passé toutes ses vacances d'été, Simone de Beauvoir, jusqu'à ses 20 ans. Aujourd'hui, cette propriété appartient à son petit-neveu, Martial d'Auriac, le fils de Jeanne, la cousine de Simone. Et c'est avec lui que Martine Abbat, notre reporter, avait pris rendez-vous.
Comment ?
Il n'y a pas trop de matériel, ça va ?
Ça va. Bonjour, monsieur.
Le paysage est vallonné, avec du bocage. On y croise des vaches limousines dans les prés, une forêt et quelques petits villages ramassés au creux des collines. Par beau temps, on peut apercevoir au loin le massif en granit des Monédières.
Là, vous avez la maison de Simone. La façade de cette maison n'a pas changé depuis que le grand-père de Simone l'a retapée vers 1870.
Maison en pierre.
Maison en pierre, jusqu'au premier étage. Je dirais une petite maison bourgeoise. Mais vous allez voir que c'est petit quand on est dedans. Il y a 3 pièces en bas, c'est tout.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. Nous passions l'été en Limousin, dans la famille de papa. Mon grand-père s'était retiré près d'Uzerche, dans une propriété achetée par son père. Il portait des favoris blancs, une casquette, la Légion d'honneur. Il fredonnait toute la journée.
Je vois qu'il y a une glycine.
Elle y était, c'est la même glycine.
Qui court le long de la façade.
C'est la même glycine.
Dont elle parle.
C'est le même pied de glycine que du temps des Beauvoir.
Il me disait le nom des arbres, des fleurs et des oiseaux. Des paons faisaient la roue devant la maison couverte de glycine. Dans la volière, j'admirais les cardinaux à la tête rouge et les faisans dorés.
Donc le parc, il y avait des paons, il y avait une volière.
Une très belle volière, aussi grande qu'un demi-tennis, énorme. Et dedans, il y avait même un bassin et des petits arbres. Et il y avait surtout un magnifique petit bâtiment arrondi. C'était un peu le genre du Jardin des Plantes, parce que Ernest, lui, travaillait, était sous Haussmann, qui avait fait les boulevards à Paris, le Buc-Chaumont et compagnie, et travaillait beaucoup avec... Il était à la préfecture de Paris, avec ces gens-là. Donc, je pense que les idées, le plan ici qui a été fait, les allées, tout ça...
Le parc paysager,
oui,
ça vient
ça,
aussi
ça
de
vient,
là.
Ça vient un peu de là, parce qu'Ernest était obsédé. Lui, c'était le parc et les arbres, et son fils, c'était les oiseaux. Alors, évidemment, l'ensemble, c'était bien.
Le grand-père paternel de Simone de Beauvoir s'appelait Ernest. Marié à Léontine, fille d'une riche famille du nord de la France. Mais c'est le père d'Ernest, Narcisse de Beauvoir, qui a acheté la propriété de Mérignac.
Et Martial, je me souviens que dans son texte, Mémoire d'une jeune fille rangée, elle parle des vaches qu'elle entend, parle du lait qu'elle va chercher.
Il y avait une réserve, comme dans les maisons bourgeoises, une réserve de 10 ou 15 hectares, où on mettait 2-3 vaches pour le lait de la maison, pour les œufs, les poules, le potager, et quelqu'un qui s'en occupait. Et le reste, il y avait 3 fermes.
C'était loué.
C'était loué.
Il vivait en louant ses fermes.
Absolument.
C'était ce qu'on appelle
absolument.
Le fermage.
Le fermage, absolument. Et ils étaient un peu des rentiers.
C'est de la tarte à la rhubarbe.
C'était quoi la vie dans cette maison, la vie de Beauvoir? C'était quand même une vie bourgeoise. Il y avait du personnel de maison.
Oui, il y avait deux, au moins une cuisinière qui habitait une maison au-dessus. Vous êtes passé à côté là. Elle faisait la lessive, les cuivres dans la cuisine. Et puis il y avait une vieille cuisinière qui était là aussi, donc il y avait au moins 2 personnes. Et puis il y avait un jardinier qui allait chercher le journal pour M. Ernest de Beauvoir à pied à Uzerche pour lui ramener à midi. L'autre, Ernest ou Georges, les hommes trouvaient qu'il arrivait tard parce qu'il traînait au café.
Il y avait aussi la nounou.
C'est la nounou à elle, à Simone, qui était la fille d'un agriculteur d'à côté, là, qu'on connaît.
Délicieux.
Mmh.
Bravo Mercedes.
Dans Mémoire du jeune fille rangée, elle dit aussi qu'il y a des servantes.
Il prenait sûrement une jeune personne en plus pour faire le service à table, etc.
C'est-à-dire que la maman ne fait pas toutes ces
tâches. Jamais cuisine, jamais.
Donc c'est quand même une vie bourgeoise.
Ah mais une vraie bourgeoise. Mais il n'y a pas plus bourgeois que Simone, que la famille de Beauvoir.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. À Mérignac, nous roulions pendant une heure dans un petit train qui s'arrêtait toutes les 10 minutes. On chargeait les malles sur une charrette et nous gagnions à pied, à travers champs, la propriété. Je n'imaginais pas qu'il existât sur Terre aucun endroit plus agréable à habiter.
Simone a eu la chance, comme ma mère d'ailleurs, et comme la petite sœur de Simone, Poupette, on l'appelait la petite sœur, de venir tous les étés dans cette propriété, chez leur grand-père, célibataire parce que veuf, et des parents restés à Paris pour travailler ou pour leurs occupations. Et c'est le seul endroit, dit-elle, où elle avait une chambre pour elle toute seule. Avant, elle couchait avec sa sœur et la nounou. C'était le paradis sur Terre, elle l'a écrit. Quand vous avez 10 ans ou 12 ans, c'est merveilleux. parce que vous allez partout ici, elle n'avait rien d'interdit.
En un sens, nos journées y étaient austères, mais je me passais de distractions. La lecture, la promenade, les jeux que j'inventais avec ma sœur me suffisaient.
Qu'est-ce qu'on faisait pour s'occuper ?
Elle inventait en permanence, disait ma mère, des jeux. Belle, elle le lisait tout le temps.
Le pique-nique est prêt, venez vite !
À 10, 15, 16 ans, il y avait des amis dans le coin, on allait faire des pique-niques.
On jouait au tennis.
On jouait au tennis, mais il n'y avait pas de tennis américain. Il y en a eu un après.
Play.
Ready.
Par contre, on jouait
au croquet.
Et l'été, on se retrouvait, bien sûr, dès qu'on a eu 15, 16 ans. Les gens allaient en vélo.
Alors justement, il me semble qu'elle raconte qu'elle ne savait pas faire de vélo,
ouais,
qu'elle
exact.
Ne savait pas nager. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses que sa mère ne lui avait pas permises de faire.
Oui. Sa mère, elle avait une obsession, c'est qu'elle soit une jeune fille rangée. Tout un esprit du 19e siècle, si vous voulez. Et sachez quand même que sa mère, à Simone, lui a ouvert ses lettres jusqu'à l'âge de 18 ans.
Ces étés à la campagne, au début du 20e siècle, illustrent le mode de vie bourgeois de la famille Bertrand de Beauvoir.
Alors, c'est une belle maison. Hein. Les collections d'assiettes, de vaisselle, le trumeau au-dessus de la cheminée. Ça, c'était le salon où on jouait aux cartes.
Voilà.
C'est la bibliothèque.
Elle n'a pas changé.
C'est la même.
Vous avez tous les Voltaire.
Adolphe Thiers, l'histoire de la Révolution française.
Oui, oui, c'est ça.
Et elle se servait librement dans la bibliothèque.
Oui, parce qu'il n'y avait pas les parents. Il y avait que son grand-père qui laissait complètement ouvert tout. Tout était ouvert. Ouais.
Le soir, au souper, durant ces villégiatures corréziennes, on pouvait entendre la conversation des trois hommes, Ernest et ses deux fils, Gaston et Georges, l'oncle et le père de Simone.
Ma mère m'a dit plusieurs fois, mais surtout à la fin, tu ne peux pas t'imaginer comme les repas des trois hommes. L'un était un peu républicain, l'autre bonapartiste, l'autre royaliste. Donc, les discussions étaient acharnées. Mais les filles ne disaient rien. Le féminisme, elle ne l'a pas connu là, Simone, hein, parce que les femmes, c'était les hommes qui parlaient.
Elles n'avaient pas d'avis.
Oui, elles donnaient pas
officiellement.
D'avis. Elles donnaient pas d'avis. Ce qui est quand même un gâchis, parce qu'il y en a qui sont intelligentes. Hein.
Il y en a.
Voici donc l'histoire de Simone, une jeune fille rangée, au pays de la bourgeoisie.
Personne ne sait exactement ce qu'il faut entendre par la notion de bourgeoisie aujourd'hui. Peut-être s'agit-il d'un terme flou, de moins en moins accepté, de plus en plus flou, dès qu'on s'éloigne des paramètres classiques du type « une certaine aisance sur le plan économique et culturel ».
D'abord, quelle est la racine du mot « bourgeoisie » ? À l'époque médiévale, le bourgeois, c'est celui qui vit au bourg, c'est-à-dire en ville. Le bourgeois a des droits et des devoirs différents de ceux du paysan qui vit à la campagne. Le bourgeois possède quelques privilèges et par la pratique du commerce, il s'enrichit. Ainsi, au fil des siècles, on voit donc naître un nouveau groupe social. Au Moyen-Âge, il y avait une répartition tripartite de la société. Les nobles, le clergé et les paysans. Et en parallèle, apparaissent les bourgeois. Alors, lorsque vient au monde Simone de Beauvoir, le 9 janvier 1908 à Paris, à quoi ressemble la bourgeoisie de la Belle Époque ?
Il y a une hiérarchie assez nette, puisqu'il y a eu des travaux qui montrent qu'il y a une toute petite couche de grands bourgeois qui ont évidemment des fortunes qui se comptent en millions de francs or de l'époque. Ensuite, on a en dessous la catégorie qu'on pourrait caractériser comme moyenne, qui se situe entre en dessous d'1 million et jusqu'à 100 000 francs or.
Christophe Charles est historien.
ce qui permet quand même de vivre très largement. Hein. Si on n'est pas très dispendieux, on peut vivre sans travailler avec une fortune de 100 000 francs. Donc on est dans une sorte de moyenne. Et puis en dessous de cette somme, on est plus dans ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, c'est-à-dire des gens qui, eux, ne peuvent pas, même s'ils ont un petit peu de fortune, qui aident dans la vie, ne peuvent pas vivre sans rien faire. Et donc, ils ont forcément une activité, ça peut être un petit commerce, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une petite fonction moyenne dans la fonction publique, mais du coup, évidemment, ils n'ont pas le même train de vie et ils sont obligés de compter leurs sous. Il y a un roman de Balzac célèbre qui s'appelle Les petits bourgeois, où c'est vraiment l'obsession de l'argent, parce que on veut garder son rang, mais on n'est pas aussi à l'aise que ceux qui sont au-dessus de vous. Voilà.
Monsieur Albert-Marie Schmitt a choisi la lecture de l'ouvrage Les petits bourgeois de Balzac.
Archives RTF, 1961.
Les petits bourgeois souffrent d'être mal adaptés à leurs nouvelles conditions. Bons négociants, juristes experts, financiers retors, ils voudraient paraître dans le monde.
Puis-je vous accompagner dans les salons ?
Trois strates économiques, donc, pour définir la bourgeoisie de la Belle Époque.
Merci.
Quoi d'autre pour distinguer les bourgeois à l'aube du XXe siècle ?
Ce qui les distingue globalement de toutes les autres catégories, notamment les paysans et les ouvriers, c'est qu'évidemment, ils ne travaillent pas de leurs mains. C'est-à-dire, ils ont en général des emplois, soit dans la fonction publique, soit dans les professions libérales, soit chef d'entreprise ou chef d'une grande maison de commerce. Et donc, évidemment, ils donnent des ordres aux autres et ils ne mettent pas, en général, la main à la pâte, sauf exception. Et évidemment, c'est une distinction dans une société où, il ne faut pas l'oublier, où le travail manuel est quand même très majoritaire. Hein. Les paysans sont encore très nombreux, ils font presque la moitié de la population active. Les ouvriers forment, en gros, un tiers de la population active. Donc, vous voyez, la bourgeoisie, en gros, on évalue, elle est entre 10-15% maximum, hein, si on a une définition très large, de la société française. Et donc, c'est une catégorie importante, mais minoritaire, et qui essaye de se distinguer. C'est aussi une des notions importantes pour caractériser la bourgeoisie. Distinction, alors cette distinction, elle apparaît dans le vêtement. Hein. Vous connaissez tous ces photos, on voit les gens avec des chapeaux de forme, des costumes assez stricts, des robes assez amples, qui demandent évidemment un gros investissement de travail, évidemment. Ça, c'est pas du tout des choses que peuvent se payer les gens du peuple, même quand ils sont dimanche.
Là, parfait. Je crois que je préfère la verte.
Et puis, autre distinction, c'est la capacité d'employer des domestiques, qui évidemment aujourd'hui, même pour des gens qu'on peut qualifier de bourgeois, n'est pas évident, parce que la domesticité est beaucoup moins répandue dans notre société qu'elle ne l'était à cette époque. Et évidemment, ça dispense évidemment les femmes de la bourgeoisie de travailler de leurs mains. C'est aussi une distinction. Elles gardent les mains blanches et elles donnent des ordres pour toutes les tâches ménagères ennuyeuses et pénibles.
Ah, ce cadre, j'y tiens tout particulièrement, ma fille. Il coûte très cher. Vous veillerez à les poster tout à fait, surtout dans les rainures. Sans le rayer, bien sûr. Suivez-moi.
Donc ça crée une barrière sociale évidente, qu'on peut encore voir d'ailleurs aujourd'hui dans les constructions de Paris au XIXe siècle, puisque le dernier étage est réservé aux chambres de bonne pour loger la domesticité. Donc c'est inscrit même dans l'immobilier, et aujourd'hui ces chambres de bonne sont transformées en général en appartements ou en demi-appartements pour des catégories moins aisées, mais enfin on n'a plus vraiment l'utilisation de ces chambres de bonne.
1900, était-ce vraiment la belle époque ?
Écoutez, moi je me souviens, les jolies promenades au bois.
La danseuse Cléo de Mérode, 1948.
Les élégances dans cette allée des acacias.
Les hommes en chapeau de forme gris, oui. En redingote grise.
Mais oui, et les toilettes merveilleuses dans ces victorias, comme c'était joli.
Oui, les victorias, c'est-à-dire la voiture découverte.
La voiture découverte.
Qui laissait voir la femme dans son ondulation, n'est-ce pas ?
Il y avait des rangées de voitures dans ces acacias.
Alors justement, venons-en à cette famille Beauvoir. Où est-ce que vous la classeriez sur l'échelle que vous venez de définir, Christophe Charles ?
Alors, d'après les données qu'on peut avoir, soit des données objectives, soit ce que nous livre Simone de Beauvoir dans ses souvenirs, moi je la mettrais dans la moyenne bourgeoisie, dans la mesure où c'est une fortune assez récente, hein, puisque d'après ce qu'on voit, c'est essentiellement son grand-père qui a accumulé une fortune foncière relativement substantielle, qui a permis notamment à son oncle, qui est l'aîné de la famille, de vivre sans travailler, alors que le père de Simone de Beauvoir, lui, comme il a une part d'héritage, semble-t-il, moins importante, et en tout cas, il n'hérite pas du domaine foncier, est obligé d'avoir quand même une profession. Donc on voit bien qu'elle est, c'est une famille qui est à l'aise, mais enfin qui n'est pas suffisamment à l'aise pour donner à tous ses enfants les mêmes chances dans la vie. Autre indicateur, c'est le fait que c'est une famille qui est très obsédée par les mariages. Dans les mémoires de Simone de Beauvoir, on voit bien que marier sa fille, lui trouver une dot, lui trouver un mari du même milieu et de même niveau de fortune est très important. Ce qui veut dire qu'il faut ne pas déchoir. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un de moins riche, parce que évidemment, au niveau de la génération suivante, ils seront handicapés. Et il ne faut pas non plus aspirer trop haut, parce qu'on aura des difficultés à proposer une dot en accord avec la fortune du prétendant ou de la prétendante. Donc c'est une situation un peu instable. Alors on voit ça par exemple dans le fait que le père de Simone de Beauvoir va essayer de trouver une héritière et il prend comme épouse une fille de banquier. Alors on pourrait dire, ah ben voilà, quelqu'un qui a beaucoup de chance, il a trouvé une fille de banquier. Mais c'est un banquier à Verdun, ce qui n'est quand même pas une métropole absolument gigantesque. Et surtout, ce banquier, on l'apprend au cours du récit de la vie de Simone de Beauvoir, va faire une faillite assez retentissante en 1909, qui se traduit non seulement par la liquidation de la banque, donc, du coup la fortune elle est très très entamée, une indignité puisque ce grand-père va faire de la prison, ce qui dans la famille évidemment fait beaucoup de vagues, et ensuite il faudra qu'il se refasse, comme on dit, qu'il trouve une autre activité, il va avoir beaucoup de mal à se remettre sur pied. Enfin, Simone de Beauvoir a des remarques assez désobligeantes sur ce grand-père qui a toujours des projets d'entreprise et puis à chaque fois ça ne marche pas. Donc vous voyez, c'est quand même une fragilité, hein, on pourrait croire de loin, bon, un banquier ça va, mais tous les banquiers ne réussissent pas.
Mais qu'avez-vous, père ?
J'ai fait mes comptes. Il me faut 30 000 francs pour le 31 décembre. Sans cela, je suis perdu.
Simone de Beauvoir grandit au cœur de Paris, dans un milieu bourgeois. Or, elle s'appelle De Beauvoir, avec une particule. Quel sens donner à cette apparence aristocratique ? Est-elle d'ascendance noble ? Qu'en pense l'historien Christophe Charles ?
Moi, j'ai fait un petit peu des recherches généalogiques et je m'aperçois qu'en réalité, leur vrai nom, c'est Bertrand. Donc, c'est un nom tout à fait bourgeois et tout à fait roturier. Et au fil des actes d'état civil, des mariages, etc., on voit qu'ils ajoutent ce De Beauvoir, disons autour de la monarchie de Juillet, donc dans les années 1830, quand ils se déclarent leur nom, ils se disent plus seulement Bertrand, mais Bertrand de Beauvoir. C'est un nom assez répandu dans l'aristocratie, puisque si on regarde par exemple le bottin mondain des années 1900, il y a plusieurs familles de Beauvoir, mais ce n'est pas cette famille-là. Et ce sont des vrais nobles, parce qu'eux, ils ont des titres. Il y a un marquis de Beauvoir, par exemple. Je pense qu'ils utilisent cette homonymie pour se donner un petit peu une allure aristocratique, alors que c'est complètement usurpé. Il y a un passage des mémoires où Simone de Beauvoir dit que son père, effectivement, se prend pour un aristocrate, en fait. En tout cas, il voudrait jouer les aristocrates alors qu'il n'en a ni les revenus, ni les titres. Il n'arrive même pas, enfin, il y a un passage où il explique qu'il essaye d'aller dans les salons, un peu comme Proust à la même époque. Et pour pouvoir entrer dans les salons, comme il n'est pas un vrai noble, il est obligé de jouer la comédie. C'est-à-dire, il propose ses services pour faire des petites pièces de théâtre qui sont jouées dans les salons. Ça plaît évidemment aux aristocrates qui s'ennuient. Mais en fait, c'est une façon d'entrer un petit peu par la petite porte et pas du tout parce que ça famille ou parce que ses titres lui permettent de parler avec des gens vraiment de cette aristocratie dominante.
Debout. Chut, le baron arrive. Allez.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. Par ses opinions, mon père appartenait à son époque et à sa classe. Il tenait pour utopique l'idée d'un rétablissement de la royauté, mais la République ne lui inspirait que du dégoût.
Buvons à la mort de la République.
Sans être affilié à l'Action française, il avait des amis parmi les camelots du roi et il admirait Maurras et Daudet.
Et alors justement, quelle valeur défend cet aristocrate de façade ? Quelle est la vision du monde de Georges Bertrand de Beauvoir ?
Eh bien justement, ça elle l'explique aussi assez bien. Il est bon, il fait ses études à la faculté de droit, qui est une faculté assez conservatrice, et il en adopte assez largement les convictions. C'est une faculté où on est assez hostile à la République, hein. Il est très hostile à la République, il veut surtout pas que ses enfants aillent faire des études dans l'enseignement public, hein. Elles sont toutes les deux mises dans un cours privé catholique. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de rejet de la société de la Troisième République, enfin de la société qui est en train de se développer. Il est anti-Dreyfusard, bon ça c'est pas très extraordinaire, parce que c'était finalement majoritaire en France, contrairement à ce qu'on pense, mais il est vraiment très anti-Dreyfusard. Elle dit même qu'il a des sympathies pour l'Action française, même s'il n'est pas adhérent formellement, enfin il a beaucoup d'amis dans le milieu de l'Action française, donc des gens qui souhaiteraient le renversement de la République, le retour à la monarchie, etc. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est resté un peu figé dans une vision très traditionnelle de la société où l'aristocratie est d'une essence supérieure, où elle a des droits supérieurs, et il ne supporte évidemment pas ni la République, ni la démocratie, parce que ça met tout le monde à égalité. Et puis surtout, il est très attaché au rôle de la religion pour la formation des enfants, et c'est pour ça qu'il veut que ses enfants soient uniquement scolarisés dans des établissements catholiques qui ne sont absolument pas soumis au programme de l'école et de l'enseignement secondaire de la Troisième République.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Vous voyez, Madeleine, c'était là qu'était la porte de l'immeuble où je suis née.
Simone de Beauvoir, 1967.
C'était le 103 boulevard Montparnasse. Et maintenant, il y a le cinéma. Et c'était juste au-dessus de la rotonde, mais qui était moins grande. Mais alors, c'était paradoxal parce qu'on entrait par le boulevard Montparnasse, mais je vais vous montrer où était l'immeuble en fait. Ça donnait sur le boulevard Raspail.
Avant la Première Guerre mondiale, la famille Beauvoir vit dans le quartier de Montparnasse. Alors, à quoi ressemble la vie quotidienne d'un Georges Bertrand de Beauvoir, le père de Simone, et incarnation de cette moyenne bourgeoisie parisienne ?
Bon, on voit bien qu'il a un cadre de vie très confortable. Il habite boulevard Montparnasse, hein, à peu près au-dessus du café de la Rotonde, dans un bel appartement, d'après ce que dit Simone de Beauvoir. Donc, elle décrit, mais c'est des souvenirs d'enfance, donc c'est peut-être un peu enjolivé. Et ils ont une domestique. Donc voilà, c'est un peu ça, le statut classique. Ils partent en vacances, évidemment, tous les étés, mais ils font des vacances, finalement, qui ne sont pas extraordinairement coûteuses, puisqu'ils vont dans la famille des uns et des autres, puisque les familles sont avec des origines provinciales et ont gardé des biens fonciers en province. Et ils font de temps en temps des sorties au bain de mer, hein, puisque Simone de Beauvoir raconte que son père a rencontré sa mère en présentation à Houlgat, dans une station balnéaire. Donc voilà, c'est un peu cette vie confortable, sans excès. Hein. C'est pas le grand luxe comme chez Proust, mais c'est vraiment agréable.
La mère de Simone de Beauvoir s'appelle Françoise Brasseur, fille d'un banquier de Verdun. Mariée en 1906, Françoise de Beauvoir accouche de Simone en 1908. Elle a alors 22 ans. À quoi ressemble sa vie de femme bourgeoise au début du XXe siècle ?
C'est une vie surtout concentrée sur le privé.
L'historienne Michel Perrault.
La sphère publique, la sphère privée sont très distinctes. La famille centrale, une famille régie par le Code Napoléon, toujours là et peu changée, c'est-à-dire que c'est patriarcal.
Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Le rôle des femmes, c'est d'être une épouse, une mère, une maîtresse de maison. Ça compte beaucoup pour les femmes bourgeoises, ce qui veut dire qu'elles ont de la domesticité. Elles ont une autorité quelque part, elles gèrent la domesticité.
Augustine, veuille avoir la gentillesse de ramasser les morceaux et de les jeter.
Dans ces familles bourgeoises, avant la guerre de 14, la religion est très importante. Et dans toute la jeunesse de Simone de Beauvoir, ça va jouer un très grand rôle, y compris pour qu'elle s'en détache complètement.
Votre âme me semble lourde de péché. Confessons-nous.
Les femmes ne travaillent pas. Celles qui travaillent, ce sont vraiment des minorités un peu excentriques, des artistes peut-être, qu'on peut tolérer, mais avec un regard distant. Autrement dit, la femme bourgeoise, c'est un pilier de l'ordre bourgeois. Alors, là où le couple des parents de Simone de Beauvoir est peut-être original, c'est qu'ils n'ont que deux filles. Donc, il y a peut-être une contraception qui a été pratiquée. Toutes ces questions-là, religion, procréation, sexualité par conséquent, c'est très important, même si ce sont des choses dont on ne parle pas. Les femmes de la bourgeoisie, eh bien, d'une certaine manière aussi, elles sont un peu muettes. On ne parle pas de soi, on ne parle pas de son corps, on a un langage convenu, codé, on refoule beaucoup. On n'oubliera pas que c'est la grande époque de développement de la psychanalyse, freudienne bien sûr, et que c'est pas pour rien que les femmes bourgeoises ont été un petit peu le matériau pour Freud.
Je vous écoute.
Il avait beau être à Vienne, c'était tout à fait occidental pour les femmes bourgeoises.
J'ai perdu ma mère juste après ma naissance. Et j'allais mourir très jeune, j'en avais la certitude.
Ça vous effrayait ?
Parfois, oui. Je faisais des cauchemars.
Quels cauchemars ?
Mon cercueil était jeté à l'eau et broyé par les requins. On m'étouffait, on m'empoisonnait en m'enfonçant des chandeliers dans la gorge.
Qui ?
Mon père, ma grand-mère. Mais la plupart du temps, j'acceptais mon sort. C'était mon destin comme ma mère. Mon destin comme ma mère.
Au début de ce XXe siècle, Michel Perrault, une femme de ce milieu bourgeois, comme Françoise Brasseur, qui voudrait faire des études, quel choix s'offrait-elle à ce moment-là, alors ?
Des choix très limités, parce que, comme disait Georges Sand au XIXe siècle, le manque d'instruction des femmes, c'est le grand crime des hommes envers les femmes. Il y a une inégalité constante dans l'organisation des études. Le monde n'est pas mixte. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Les garçons, la bourgeoisie, c'est les futurs leaders, les grands lycées, les études sérieuses, polytechniques, etc. Ce n'est pas le monde des femmes bourgeoises. Les premiers lycées de filles ont été créés sous la Troisième République, dans les années 90. Un des premiers a été le lycée Fénelon, à Paris.
Tenez, voici la copie de ce que les lecteurs du journal Le Temps pouvaient lire le 21 octobre 1883.
Merci, madame. Ce matin, s'est ouvert le lycée Fénelon, premier lycée de filles ouvert à Paris. Que fera-t-on d'elles ? Des collégiennes émancipées qui, bientôt pédantes d'une science mal digérée, se rendront insupportables par leurs prétentions, tout en perdant les qualités foncières qui faisaient d'elles, autrefois, des jeunes filles pleines de modestie et de charme.
Ces lycées, d'abord, ils sont mal vus dans la bourgeoisie, parce que il y a une bourgeoisie républicaine, hein, mais il y a aussi une bourgeoisie plus monarchique, plus aristocratique, morasse, etc. Alors, les lycées républicains, c'est pas bien vu. Donc, on met les filles ailleurs. Simone de Beauvoir ne va pas au lycée, elle va au cours Désir. Dans ces lycées, on n'accède pas au baccalauréat. Il ne faut pas oublier que c'est seulement la loi de 1924, c'est-à-dire après la Première Guerre, qui va créer l'égalité totale de baccalauréat pour les filles et pour les garçons. Jusque-là, il y a un brevet supérieur et une espèce de forme de baccalauréat pour les filles qui exclut le latin, parce que le latin, c'est toujours un peu la langue des clercs et de la science. Ne pas oublier que Jean Jaurès a encore soutenu sa thèse en latin. Ça restait vraiment la langue du savoir. Et d'autre part, très peu de science. Pourquoi ? Mais parce que les filles sont pas capables. Elles n'ont pas l'esprit abstrait. Comment voulez-vous qu'une fille fasse des maths ? C'est ridicule. Hein ? Autrement dit, il y a l'idée d'un savoir pour les filles qui est plutôt de l'ordre de la littérature, et entendons-nous, pas la grande. On filtre un petit peu aussi les lectures, faut pas l'oublier.
Nous revenions de la promenade au clair de lune qui argentait faiblement les sentiers dans la campagne assombrie.
Et puis les arts d'agrément. Voilà, les arts d'agrément. Faire du piano, savoir dessiner, savoir faire un petit croquis de ses enfants, quand la photographie va arriver, savoir prendre des photos de la petite famille, mais naturellement des choses qu'on n'expose pas. Parce que, comme disait jadis Rousseau, une femme en public est toujours déplacée.
Attention !
Donc, au début du XXe siècle, les femmes de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'horizon de Simone de Beauvoir, sont vouées à la sphère privée.
Si nous passions au salon pour prendre le café.
Alors se pose maintenant la question de leur statut politique. Faisons d'abord un léger bond en avant et écoutons cette archive de juin 1936.
Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes, avec à leur tête Madame Louise Weiss, envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation.
Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger.
Attention!
Est-ce qu'on peut rappeler, Michel Perrault, en quelques mots, le statut politique des femmes au début du XXe siècle ? Où est-ce qu'on en est ?
Les femmes sont exclues de l'exercice de la politique. Les femmes ne votent pas. Comme chacun sait, en France, elles ne voteront qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Loi de 1944, un premier vote en 1945. Et par conséquent, elles sont toujours ce que Sieyès, à l'époque de la Révolution française, avait dit et organisé. Elles sont des citoyennes passives. C'est-à-dire qu'elles ont droit, comme on disait, à la protection de leur personne et de leurs biens, mais pas d'intervenir dans les affaires publiques. Ça, vraiment, c'est fondamental. Et on pourrait dire que la démocratie timide en marche, au XIXe siècle, s'est fondée sur la distinction de ce qu'on appelait les sphères. La sphère publique, les hommes, avec au sommet de la pyramide la politique, et le privé, les femmes, la famille, sous le contrôle des hommes, puisqu'encore une fois, le Code civil Napoléon est un monument du patriarcat. Donc, les femmes ne sont pas dans la politique, et à la limite, une femme bien élevée ne s'occupe pas de politique. Et il y avait même, au fond, parfois, une acceptation des femmes de cela. La politique, c'est les hommes. Une femme qui fait de la politique, c'est un peu mal élevé. Hein. Et puis, le privé, c'est très important, c'est la vie même. Et beaucoup de femmes, d'ailleurs, disaient, au fond, c'est nous qui avons le vrai pouvoir. Et naturellement, quand elles disaient ça, tout le monde était très content.
Récapitulons. la famille Beauvoir appartient à la moyenne bourgeoisie parisienne. Si le père est vaguement avocat, il préfère surtout jouer la comédie dans les salons mondains. Durant l'été 1911, par exemple, les parents de Simone de Beauvoir séjournent à Divonne-les-Bains, où ils se produisent sur la scène du casino.
Tout le monde est en place ? Parfait.
Proche de l'Action française, Georges Bertrand de Beauvoir se méfie de la République et de ses idées de progrès sociaux.
Buvons à la mort de la République.
La mère, elle, est fervente catholique et la religion occupe une place considérable, au point de dicter le choix pour l'éducation scolaire de Simone. La jeune fille rangée n'ira pas à l'école républicaine.
Silence.
Elle est inscrite d'office à un cours privé, 41 rue Jacob, dans le 6e arrondissement de Paris.
Oui, ce cours Désir, que je vais vous montrer, c'est plus le cours Désir maintenant, il a déménagé.
Simone de Beauvoir, 1967.
Voilà, c'est cette porte-là. Et il y a encore l'inscription pour complémentaire l'éducation. 1853, hein.
Ce sont des endroits où la bourgeoisie forme ses filles. On n'est plus au XVIIIe siècle, on les mettait au couvent, où elles restaient quelques années pour être directement ensuite mises en possession d'un mari, ce qui pouvait parfois causer des drames.
Danielle Salnave, académicienne et biographe de Simone de Beauvoir.
Les jeunes filles sont élevées au cours Désir. Ça veut dire que Simone de Beauvoir n'a connu ni l'école primaire publique ou privée, ni le collège ou le lycée plus tard. Elle a connu le cours Désir. La formation est donnée par des dames, mais les mères assistent. C'est-à-dire qu'au fond de la salle, il y a des fauteuils et des chaises pour les mères. Les mères assistent. Ce qui veut dire qu'elle surveille évidemment ce qui se dit, mais que c'est une chose étrange d'être surveillée à la fois par sa mère et par son professeur. Parce que beaucoup d'élèves profitent de ce qu'elles ne sont plus chez elles pour retrouver un peu de liberté. Ce n'est pas le cas. Ce qui permettra d'ailleurs à une scène amusante, puisque à ce cours Désir, Désir, Simone de Beauvoir fait la connaissance d'Elisabeth Lacoing, dont on reparlera, et qui lui paraît d'une liberté extraordinaire. Un jour où elles montrent ce qu'elles sont capables de jouer ou de chanter ou sur un piano, Elisabeth Zaza se retourne vers sa mère et lui tire la langue. Et pour Simone de Beauvoir, c'est une chose inouïe, tirer la langue à sa mère.
Quand j'étais petite fille, les moutons, j'en ai gagné.
Très vite, dans ce cours privé de la rue Jacob, Simone de Beauvoir noue une amitié fusionnelle avec une jeune camarade, Elisabeth Lacoing, dite Zaza.
Elisabeth venait d'une famille catholique, une catholique rigoriste, ce que n'étaient pas du tout les deux Beauvoir.
Michel Perrault.
Une famille nombreuse, il y avait 10 enfants, elle était, Elisabeth, la troisième. Et dans cette famille du Sud-Ouest, il y avait des principes. Cette famille incarnait la bourgeoisie vraiment catholique, où les rôles sont très marqués, où les filles doivent suivre un chemin qui ne passera pas par le travail salarié, en tout cas, pas même par la lecture. Quand Simone de Beauvoir et Zaza ont commencé à échanger des lettres, ce qui a été très très important pour elles, les mères, et surtout la mère de Zaza, lisait le courrier. C'était comme ça. Les mères avaient le droit, et même peut-être le devoir, de lire le courrier de leur fille pour éviter qu'elles aient de mauvaises fréquentations. Si un jeune homme leur écrit, vous vous rendez compte, le mariage est là au bout.
Nous sommes que vous oubliez que ces jeunes filles sont destinées à devenir des épouses capables d'assurer le bonheur de leur mari.
Alors apprenez-leur la discipline, mesdames. Lorsqu'une femme est obéissante, c'est une excellente épouse. Vous pouvez disposer, mesdames.
Il faut qu'elle se marie. Il faut qu'elle se marie jeune. Et il faut qu'elle se marie avec quelqu'un qu'elle aimera. Oui, on commence tout de même à parler un peu d'amour dans le mariage. Mais ce n'est pas le plus important. Une union qui convienne aux familles, qui lui assure une vie avec un petit peu d'argent, relativement aisé, le plus aisé possible, une vie calme, harmonieuse, voilà. L'amour, bon, l'amour en plus, peut-être. Hein. Pour les filles, les hommes, c'est tout à fait différent. Les hommes, on sait qu'ils ont des besoins sexuels. Et par conséquent, il y a une extrême tolérance pour l'adultère masculin, pour les liaisons, etc. Une jeune fille, au contraire, vit dans l'idée qu'elle va se vouer corps et âme à son époux et que si elle commettait un adultère, le mari peut très bien même la poursuivre en justice.
Police, ouvrez ! Nous sommes ici pour constater un flagrant délit d'adultère.
Suite à la plainte d'Alphonse Chagnol, votre mari.
Au fond, Simone de Beauvoir est une rebelle. Ce que n'est pas Zaza. Zaza, elle souffre de son milieu, mais elle n'ose pas. Les ailes lui sont coupées. C'est une jeune fille aux ailes coupées.
Élisabeth Lacoin était une jeune fille irrévérencieuse. Elle tirait la langue à sa mère. Mais au fond, elle restait sous la coupe de son éducation catholique rigoriste. Simone de Beauvoir, elle, était une jeune fille très disciplinée. Mais elle a vite exprimé un esprit frondeur. Sans doute s'y sentait-elle autorisée par une éducation moins stricte.
J'aime beaucoup, moi, les détails qui sont donnés presque involontairement.
Daniel Salnave.
Un jour que sa mère se plaignait devant des dames à la réception, mon Dieu, que c'est fatigant mes filles, elles me fatiguent, les élever c'est fatigant. Et Simone de Beauvoir lui dit, mais maman, ce n'est pas vous qui nous élevez, c'est Louise. Ce qui était vrai. Et quelques-unes des anecdotes qu'elle raconte sont très drôles. Un jour, ces petites crises entre la bonne et la petite fille, une dame s'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Et je la remercie d'un coup de pied. Une autre fois, une autre dame, peut-être la même, je ne sais plus, lui tâte les mollets. Ce qu'on n'ose plus faire maintenant, on ne tripote pas les enfants comme ça. Mais on le faisait pour montrer qu'on le trouvait charmant. Elle est furieuse et elle éclate, elle se roule de colère, se roule par terre. Elle est fière d'exposer ses colères. Parce que la colère pour un enfant de 3 ans, c'est ce que sera le deuxième sexe pour une femme de 40 ans. C'est-à-dire, c'est une manière de dire ce qu'on pense clairement, avec les moyens qu'on a. À 3 ans, on n'en a pas beaucoup, sauf se rouler par terre ou donner un coup de pied à la dame. Donc, je pense qu'elle veut montrer comment elle s'est constituée. C'est l'histoire d'une construction, d'une constitution. Donc, elle va entrer au cours de Zir en entendant la petite fille qui peut donner des coups de pied, et en même temps, une petite fille très soumise, très respectueuse des institutions. Donc, c'est une petite fille extrêmement sérieuse, qui prend extrêmement au sérieux ce qu'elle fait, ses études.
Asseyez-vous.
Une petite fille extrêmement sérieuse, au milieu d'une famille qui veut tenir son rang. Georges Bertrand de Beauvoir, le pater familias, ne veut pas trop travailler. Il estime que ce n'est pas digne de son rang. Or, les choses pour lui vont vite se compliquer.
Ce qui va évidemment changer les choses, c'est que d'une part, donc, il y a cet événement de la faillite du beau-père de Georges de Beauvoir.
Christophe Charles.
Et cette faillite a un effet direct, puisque il avait promis, lors du contrat de mariage qui avait été signé un ou deux ans avant cette faillite, de donner à sa fille une certaine somme d'argent pour sa dot. Alors ça, on ne sait pas la somme, enfin, comme il était banquier, on peut imaginer que ce n'était pas une somme ridicule. Et évidemment, avec la faillite, il n'a plus d'argent du tout, puisque toute son entreprise est liquidée. Il y a une vente aux enchères du mobilier, j'ai trouvé la trace de ça dans un journal, et évidemment, il ne payera pas la dot. Donc du coup, déjà, Georges de Beauvoir perd ce capital dont il espérait des revenus et qui se serait ajouté à ses propres revenus. Donc baisse, évidemment, du niveau de vie déjà de la famille juste avant la guerre de 14.
Arrive ensuite le mois d'août 1914. Simone de Beauvoir a 6 ans et toute l'Europe sombre dans la guerre.
Et Et puis, deuxième événement, Georges de Beauvoir va être mobilisé, évidemment, comme tous les gens de sa génération. Et comme il n'est pas officier, il a une solde très misérable, hein, c'est ce que dit sa fille. Et évidemment, le niveau de vie, là encore, de la famille baisse par rapport à ce que pouvaient rapporter les activités professionnelles de Georges de Beauvoir avant la guerre. Et puis, dernière péripétie, et la plus grave, une partie des valeurs mobilières que détenait son père, c'était des emprunts russes, semble-t-il, puisqu'il se plaint très amèrement que le gouvernement bolchevique, vous savez, une de ses décisions après la révolution de 1917, c'est de ne pas rembourser les rentiers qui avaient placé leur argent dans l'Empire russe avant la guerre de 14. Donc toute une partie des rentiers français vont perdre leur capital et évidemment les revenus aussi qui tiraient de ce capital. Et évidemment, c'est un coup dur pour ces rentiers, dans la mesure où, en plus, nous arrivons dans les années 1920 avec la dévaluation du franc, qui est consécutive à la guerre de 14, donc l'inflation va se développer et donc on a une baisse de revenus, en même temps on a une inflation, donc évidemment une partie de cette moyenne bourgeoisie se trouve dégradée sur le plan financier et ravalée au niveau de la petite bourgeoisie. Alors le père de Simone de Beauvoir dans ses mémoires dit « je fais partie des nouveaux pauvres ». C'est un peu excessif parce qu'il continue d'habiter quand même dans un appartement rue de Rennes, ce qui n'est quand même pas l'endroit le plus épouvantable de Paris, mais enfin il a perdu quand même ce grand appartement qu'il avait, il prend un appartement plus petit où ses deux filles sont obligées de vivre dans la même chambre alors qu'avant elles avaient chacune une chambre. Ils sont obligés de licencier la domestique, du coup ils sont astreints à faire des tas de tâches ménagères qu'ils n'avaient pas à faire auparavant, donc il y a un sentiment de déclassement. Et ils le ressentent d'autant plus qu'évidemment les filles continuent d'aller dans la même école et que les autres enfants, eux, ne sont pas tous frappés par les mêmes dégradations du niveau de vie. Donc l'écart s'est creusé au sein même de la même école. Et puis, en plus, il y a une rancœur, hein, puisqu'ils n'ont aucune possibilité de lutter contre ça, dans la mesure où ce sont des événements qui les dépassent largement. Hein, l'inflation, nous connaissons ça en ce moment, on l'a subi. On peut s'en prémunir en essayant d'obtenir des augmentations, mais comme Georges de Beauvoir a une vision pas du tout de salarié, lui, il vit d'emplois qui sont plutôt de professions libérales, il n'y a pas moyen tellement de lutter. Et puis, il n'a pas tellement le sens des affaires, visiblement. Et sa fille le reproche surtout d'être un peu paresseux et de ne pas chercher de changer d'activité pour trouver un meilleur emploi. Donc, il y a vraiment un sentiment de déclin qui est d'autant plus sensible qu'ils vivent toujours dans le même quartier et qu'ils voient des gens, au contraire, qui profitent de la situation.
La famille Beauvoir subit donc un déclassement après la guerre de 14. D'autant plus que Georges Bertrand de Beauvoir a fait une crise cardiaque en 1916. Il est affaibli, il ressasse. En conclusion de ce premier épisode, ayez en tête que la famille Beauvoir véhicule des valeurs conservatrices, voire réactionnaires, celles d'un monde ancien où la femme est vouée à la sphère privée, au service de son époux. Ajoutez que Georges Bertrand de Beauvoir est un dilettante et, à vrai dire, il ne fait pas grand-chose pour maintenir son rang après la guerre de 14. Ainsi, ce déclassement social offre de nouvelles perspectives à la jeune fille rangée.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. L'individualisme de papa et son éthique profane contrastait avec la sévère morale traditionnaliste que m'enseignait ma mère. Ce déséquilibre qui me vouait à la contestation explique en grande partie que je sois devenue une intellectuelle.
Après délibération, le jury de l'agrégation de philosophie que j'ai l'honneur de présider déclare définitivement admis les candidats suivants.
Comment les études et sa rencontre avec Jean-Paul Sartre ont propulsé Simone de Beauvoir vers un autre destin, c'est l'horizon du prochain épisode.
Premier, Monsieur Sartre, Jean-Paul. Deuxième, Mademoiselle Bertrand de Beauvoir, Simone. De Beauvoir,
Simone. Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Bérangère Varluzel. Reportage, Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Frédéric Martin et Aurore Juvenel. Chronologie des faits, Sylvie Lebon de Beauvoir, aux éditions Gallimard. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Au devant de la vie. Simone de Beauvoir, Un voyage en bourgeoisie, est un podcast original de France Inter.